France Info. L'invité de France Info ce matin est Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Jack Lang.
Bonjour.
C'est un peu, oui, pour commencer, ce titre d'ancien ministre de l'Éducation qui va nous intéresser. Vous étiez hier soir face à l'actuel ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, dans l'émission politique sur France 2. Vous avez débattu avec lui. On regarde un extrait de votre dialogue.
Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est pourquoi je vous demande de rétablir les 4 jours et demi.
Je sais à quel point vous êtes de bonne foi quand vous dites cela, et je sais à quel point vous le croyez. Mais néanmoins, malheureusement, vos arguments ne tiennent pas, je tiens à le dire.
C'est un bon débatteur, Jean-Michel Blanquer ?
Oui. Non, c'est très agréable parce que, bon, il est sérieux. Moi, j'aime les gens sérieux.
Il connaît ses dossiers ?
Il est compétent, absolument compétent. D'accord. Depuis longtemps, il a...
Oui, il connaît la machine.
Il a été directeur de l'enseignement scolaire. Il connaît sur le bout des doigts les choses, et c'est important. Et à aucun moment dans ce débat, j'ai eu le sentiment de participer à ces débats désagréables entre politiciens. Non, c'était un débat...
Un bon débatteur et un bon ministre de l'Éducation ou pas ? Ça fait un peu moins d'un an qu'il est là ?
Non. Disons que je ne suis pas d'accord sur tout, je l'ai d'ailleurs exprimé hier soir, mais je dois dire qu'il mène son action avec une continuité, un engagement réel, et c'est incontestable.
Il est meilleur que sa prédécesseur ?
J'ai pas envie de faire un tableau de chasse ou un tableau d'honneur.
C'est important d'avoir une expertise de ces choses-là, après tout... Il servait à l'intérêt général.
Incontestablement, disons qu'il maîtrise le domaine qui est le sien avec une qualité, une compétence, une capacité incontestable.
Vous avez choisi de parler d'abord des rythmes scolaires avec lui parce qu'il vous semble que la situation qui est faite, qui après tout a l'air intelligente, peut-être ne l'est-elle pas. Chaque commune s'adapte 4 jours et demi, 4 jours par semaine d'école, et ça ne vous paraît pas une situation satisfaisante.
C'est une question, peut-être je ne l'ai pas assez clairement dit hier, mais le temps de l'école, oui. Ce n'est pas une question qui est à géométrie variable. C'est une question qui relève des attributions nationales d'un ministre de l'État. Demain, vous n'imaginez pas les écoles décider que les vacances de Pâques auront lieu à tel moment plutôt qu'à tel autre. Le temps scolaire, c'est une attribution du ministre de l'Éducation nationale. Simplement, je crois qu'il a souhaité accorder la liberté aux maires pour ne pas les froisser. C'est là peut-être un peu la faiblesse de M. Blanquer, c'est qu'il est très politique en ce sens.
Trop.
Il ne veut pas se mettre à dos.
Trop.
Sur ce plan-là, oui.
Oui,
il brosse dans le sens du poil, en l'occurrence, les municipalités. Moi, je suis convaincu qu'au fond, lui-même, il pense comme moi, c'est-à-dire, et comme beaucoup de personnalités, compagnons du Collège de France, Mona Ozouf, Cyril Nick, quand même. La France, c'est le pays d'Europe dans lequel le nombre de jours de classe est le plus petit. Et en acceptant la suppression d'une matinée, c'est quasiment un mois d'école que vous faites disparaître.
C'est un vrai préjudice, c'est ça, votre avis ?
C'est un préjudice, bien entendu, parce que vous pouvez pas... Les journées, par exemple, les élèves français sont beaucoup trop longues. Ils sortent fatigués, épuisés. Et à l'école, il faut un temps de respiration, Bref, et puis il y a beaucoup de matières qu'ils veulent introduire. Voilà, je crois que c'est une très grande erreur. Vous savez, je veux pas réhabiliter l'âge d'antan, qui n'a jamais été un âge d'or, contrairement à ce qu'on croit, mais... À mon époque, on allait à l'école tous les jours, sauf le jeudi.
Voilà, le jour de repos, c'était le jeudi, ça rappellera des souvenirs à certains. Dernière réforme en date de Jean-Michel Blanquer, le baccalauréat, il expliquait comme ça dans la semaine.
Il comporte 4 épreuves terminales qui compteront pour 60% dans le résultat. L'épreuve de philosophie, qui devient l'épreuve commune par excellence. Et puis, une grande innovation, une innovation majeure de ce baccalauréat, un oral qui dure 20 minutes. Cet oral correspond à un projet présenté par l'élève.
Contrôle continu, oral, c'est une bonne manière de réformer le baccalauréat ?
Non. Alors, premièrement, je suis content que le baccalauréat, tant discuté, tant contesté, que certains voulaient jeter à la casse, soit préservé et maintenu. C'est, comme je l'avais dit un jour, un monument historique. C'est un rituel démocratique de passage. C'est la consécration, le couronnement des études secondaires, et c'est le premier pas vers l'enseignement supérieur.
Mais c'est plus vraiment le bac, Jack Lang.
En vérité, si. Si. Il y a moins de matière en fin de terminale, mais quand vous regardez de très près la réforme du ministre, c'est une série d'examens continus. Ce n'est pas du contrôle continu, contrairement à ce qui est dit. Pendant à plusieurs reprises, les élèves vont passer des examens matière par matière, en particulier à Pâques. Là, ça pose un problème d'application. À Pâques, en terminale, ils vont passer une série d'épreuves, les épreuves qui ne font pas partie des quatre. Et la question se pose, que vont faire les professeurs pendant les 3 mois qui restent? Et le dernier trimestre risque d'être inutile pour ces matières. Non, sur ce plan-là, je suis plutôt pour. Ouais. Là où il y a des interrogations, c'est sûr. Alors, l'autre point sur lequel je suis très satisfait personnellement, ouais, je milite pour cela depuis longtemps dans des livres, c'est la remise en cause des filières. Ras-le-bol de ce système dans lequel on enferme les élèves dès la première dans un carcan et on ne peut pas en sortir. On abolit les filières, tant mieux. On crée des possibilités de choix nombreuses, c'est un peu un lycée à la carte. Simplement, ce ne sera pas facile à mettre en application.
Pourquoi ?
Et ça peut apparaître parce qu'il y a une douzaine, je crois, de matières complémentaires. Il y a des lycées qui pourront le faire, les grands lycées, des lycées plus petits ou en banlieue qui ne pourront pas le faire. Et là, il y a un risque d'inégalité entre certains établissements et donc entre les élèves.
Donc, globalement, une bonne réforme avec quelques détails peut-être à revoir ou affiner.
Et en espérant qu'il va vraiment refondre pleinement les programmes du lycée qui sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop encyclopédiques, beaucoup trop touffus.
France Info. Jack Lang est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy.
Oui, encore une question sur l'éducation de Jack Lang, l'enseignement supérieur est réformé et on demande aux bacheliers qui veulent devenir des étudiants, des prérequis, c'est appelé comme ça, qu'avant on ne leur réclamait pas, certains y voient une sélection à l'entrée de l'université. Vous partagez ce jugement ?
Disons que la solution qui a été imaginée par Madame Vidal,
oui,
qui est une personne humaine, humaniste, ouverte, et est une solution plutôt bonne. Simplement, c'est entre les mains des universités. Et on peut craindre que, selon les directions d'université, ce soit en effet plus ou moins
restrictif,
sélectif ou exclusif ou discriminatoire. Et puis, je trouve qu'on demande beaucoup trop tôt aux élèves de se prononcer. Ce qu'il y a de bien dans la réforme du lycée, c'est la remise en cause des filières, parce que justement, on n'oblige pas à se spécialiser trop tôt. Il faut le plus tard possible être en mesure de changer de direction, de passer d'un domaine à un autre. Et là, je crains que ce soit encore beaucoup trop, comme vous dites, prérequis.
Ça n'est pas ce que vous dites à propos du lycée comme de l'université, cette possibilité de se déterminer très tard. Ça n'est pas pénaliser peut-être les jeunes qui ont besoin de se professionnaliser assez tôt, d'acquérir tôt un savoir-faire, de savoir assez tôt quel métier ils veulent faire. Est-ce que retarder ces choix-là, ça n'est pas préjudiciable pour la société dans son ensemble ?
Non, il ne s'agit pas de refuser toute option, mais je veux dire, on peut laisser la possibilité ouverte entre deux ou trois itinéraires et surtout permettre. Alors, je crois que c'est l'esprit de Madame Vidal, permettre, lorsqu'on a choisi tel type de licence, de passer vers une autre direction si, tout à coup, on s'aperçoit qu'on serait meilleur sur une autre voie. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin. Il y a en particulier la question de la médecine, qui mérite d'être réglé. Ce concours est inacceptable. Il est inacceptable que l'on puisse continuer à juger des futurs médecins, oui, sur la base de mathématiques et de sciences. La médecine, c'est aussi un art. L'art d'être médecin mérite d'être apprécié dans ce concours de recrutement. Et puis, il faut élargir le numerus clausus.
D'accord. Et vous n'êtes pas de ceux qui disent que cette réforme mérite des manifestations, que les jeunes descendent dans la rue. C'est une réforme qui ne mérite pas d'être rejetée.
Que les jeunes soient vigilants, attentifs, ouais, ne me paraît pas une mauvaise chose. Ça oblige les pouvoirs publics à être eux-mêmes vigilants, à éviter que, sous prétexte d'une transformation, on ne rétablisse pas une forme de sélection discriminatoire.
Le printemps dernier a été l'occasion d'un renouvellement considérable des responsables politiques, des pratiques, je n'en sais rien, mais en tout cas les têtes ont changé. Quel jugement vous portez sur ce gouvernement, sur le président de la République qui en est l'animateur principal ?
Sur le plan politique, évidemment, il y a des sujets sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Mais si vous m'interrogez sur la qualité des personnes et des méthodes de gouvernement, je suis plutôt, heureusement, surpris. Il y a...
Bluffé ?
Pardon ?
Bluffé ?
Bluffé, non, mais heureux. Par exemple, il y a quelques très bons ministres. La ministre de la Santé est excellente. La ministre de la Justice, que naguère j'avais nommé recteur à l'université de Toulouse, est remarquable.
La société civile est formidable.
Oui, mais c'est pas une société civile comme ça, choisie au hasard. Ce sont des personnes qui, dans leur vie antérieure, ont exercé des fonctions d'action. La ministre, par exemple, d'enseignement supérieur, elle a relevé une université en ruine, celle de Nice, pour en faire une université qui marche.
Vous ne citez pas la ministre de la Culture ?
La ministre de la Culture est une amie que j'aime beaucoup. Elle a accompli avec son père un travail absolument exceptionnel.
L'édition
pour
Actes Sud.
Mm-hmm. Bon, ce n'est pas une situation facile parce qu'elle hérite d'un ministère qui lui-même était en crise. Il faut lui accorder le temps.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.
Bon, il est un excellent technicien. Il n'est pas du tout dans ma sensibilité. Je trouve que la politique économique, si vous voulez, est beaucoup trop libérale. Je ne comprends pas ces mesures d'exonération fiscale extrêmement coûteuses. Parce que le moment venu, il va falloir trouver l'argent pour compenser milliards et ces milliards qui sont dispensés en vain. Mais la même critique valait aussi pour le précédent gouvernement qui a beaucoup trop aisément accordé des exonérations fiscales sans compensation.
Et puis il y a votre ancien collègue du Parti Socialiste, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui prépare un projet de loi sur l'immigration qui suscite beaucoup de débats. On écoute Gérard Collomb.
Le dispositif d'asile, c'est 2 milliards d'euros, et le dispositif hébergement d'urgence, c'est 2 milliards d'euros. On ne peut pas faire de manière exponentielle un accueil vis-à-vis de tout le monde, comme un certain nombre de gens le voudraient. Ils disent, on n'a pas besoin de faire un tri. Ben si, on est obligé de le faire.
On a besoin de faire un tri.
Mais bon, c'est un sujet alors sur lequel je suis extrêmement réservé, franchement. Quand vous voyez comment certains pays, l'Italie, pour des raisons
évidentes,
accueillent
les migrants
des millions et des millions de migrants, la Grèce, pour des raisons géographiques aussi, mais ils le font souvent avec intelligence et avec cœur. Quand vous constatez que des petits pays, grands peuples, mais petits pays géographiquement, comme la Jordanie ou le Liban, accueillent l'un 2 millions de réfugiés, l'autre 3 millions de réfugiés, quand vous voyez que l'Allemagne, ce grand pays démocratique que j'admire beaucoup, a accueilli l'an dernier près d'1 million de migrants. Franchement, on est petit, on est mesquin. La France est quand même un pays d'ouverture. D'ailleurs, nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'avions pas été nourris au long des siècles, notamment au 19e et 20e siècle, par des apports extérieurs, italiens, portugais, maghrébins, du Nord, de la Pologne et d'ailleurs. Je trouve que l'attitude actuelle, elle manque de générosité et d'ouverture. En plus, ces migrants, ce sont des gens ou ces immigrés qui ont prouvé par leur courage, par leur capacité de franchir les océans, les mers, les déserts, les souffrances, qu'ils ont des aptitudes à travailler, à inventer, absolument exceptionnelles. Donc, ouvrons un peu plus les portes.
Faire le tri, disait Gérard Collomb, le tri c'est entre des personnes qui peuvent risquer leur vie pour des raisons politiques, parce qu'elles viennent d'une dictature ou d'un pays en guerre, et celles qui fuient la famine, par exemple, ces immigrés qui viennent d'Afrique. Cette notion de tri, vous la comprenez, pour préserver les réfugiés politiques.
Je n'aime pas l'expression tri. On n'a pas affaire à un tri sélectif comme on le fait dans le domaine de... Bon, je n'ose même pas dire les mots. Et puis, les immigrés qui ne sont pas des migrants politiques, eux aussi sont victimes de violences, sont victimes de souffrances. Il faut les traiter humainement et correctement.
Votre pensée
minorité. Il y a sûrement des abus. Il y a même des abus.
Il y a des abus, évidemment. Donc,
bien sûr qu'il faut les empêcher, les éviter. Mais... il y a un langage qu'on ne devrait pas utiliser, et il y a une manière de faire qui me paraît choquante pour un pays humaniste comme le nôtre.
Vous pensez, vous convenez que votre analyse, votre sensibilité sont minoritaires aujourd'hui en France ?
Ce n'est pas si sûr, vous savez, ce n'est pas si sûr.
Il y a des enquêtes d'opinion qui disent que majoritairement, majoritairement, les Français soutiennent ce projet de loi.
Oui, mais enfin, écoutez, bon, les sondages... Et puis, on ne gouverne pas un pays par les sondages.
France Info. Jack Lang, qui dirige l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Abatti.
Le gouvernement actuel est dans une situation particulière, puisque deux de ses membres sont visés par des plaintes de nature différente, mais qui relèvent toutes deux, qui émanent toutes de femmes qui reprochent à Nicolas Hulot ou à Gérald Darmanin leur attitude vis-à-vis d'elles. Gérald Darmanin, notamment, a été l'objet d'une seconde plainte au début de la semaine, ce qui fait dire à Marlène Schiappa, dont on sent tout de même la gêne, c'était sur BFM hier soir, elle est secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, ce qui lui fait dire, cette situation lui fait dire que malgré tout, elle peut continuer à travailler, ce qui est assez curieux, on écoute Marlène Schiappa.
C'est pas agréable. Moi, je vais pas vous dire que c'est banal et je vais pas vous dire que c'est une situation qui est agréable pour qui que ce soit. Vraiment, pour qui que ce soit. Maintenant, moi, ça ne m'empêche pas de faire mon travail.
Bon, donc on sent le malaise. Comment vous ressentez les choses, vous, Jack Lang ?
Premièrement, il va de soi que je suis personnellement hostile à toutes les formes de harcèlement sexuel et j'ai même contribué en son temps à faire adopter une loi qui transformait le viol en crime. Et rien n'est plus horrible et abominable que cette violence ou que ces violences infligées aux femmes, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas non plus tout à coup considérer qu'une dénonciation par l'un ou par l'une ou par l'autre vaut vérité. Et moi je considère que M. Darmanin ou M. Hulot... à mes yeux, ne sont pas coupables des fautes que certaines voudraient leur attribuer. On ne peut pas vivre en permanence sous le coup, sous la menace de rumeurs de toutes sortes. Ce n'est pas acceptable.
Mais c'est difficile.
Moi, personnellement, je connais et l'un et l'autre.
Oui.
Et je leur accorde pleine confiance.
C'est-à-dire?
Ben parce que je pense en des hommes qui...
leur accorder pleine confiance, ça suppose.
Pleine confiance, parce que je les ai vus agir dans la vie, sont des gens honnêtes, sérieux, et qui, je pense, ne peuvent pas s'être abandonnés à des actes de ce genre.
Voilà, je vais rectifier mon propos parce que j'ai employé un mauvais terme.
Excusez-moi.
Non, pas du tout, mais leur faire confiance, ça veut dire que les plaignantes mentent. Or, ni vous ni moi n'en avons rien.
Je vous livre un sentiment,
oui.
Mais un sentiment n'est pas une
d'accord.
Certitude absolue.
Non,
qu'on cesse quand même... Oui, il faut ouvrir la justice à des plaintes étayées, fondées, et qu'on aille jusqu'au bout s'il y a eu crime ou délit. Mais quand même, nous vivons dans un climat où des délations...
Ça va trop loin ? Les femmes ont été trop loin avec...
Pas les femmes.
Ah bah, pas c'est elles qui portent le fer dans la
plaie. Il y a d'autres domaines dans lesquels il y a des rumeurs et des délations qui empoisonnent la vie publique.
Mais là, pour le coup, on est dans le sillage des affaires Weinstein, MeToo, Balance ton porc. Est-ce que ça a été trop loin ?
Non, mais en tout cas, dans le cas précis, je n'ai pas analysé le cas de monsieur Darmanin, que je connais assez bien, puisque l'Institut du Monde Arabe de Paris travaille étroitement avec l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, dont monsieur Darmanin est l'un des soutiens. Et dans quelques jours, d'ailleurs, nous allons, avec le Premier ministre, inaugurer l'exposition Chrétien d'Orient à Tourcoing. Et j'apprécie ses qualités d'honnêteté et de sérieux. Pour le reste... que la justice fasse son travail, s'il y a travail à accomplir.
Après des propos rapportés selon lesquels le président américain Donald Trump aurait qualifié certains pays de pays de merde, c'était apparu comme ça, donc je le cite comme ça. Vous avez vous-même fait un tweet « Trump, président de merde ». Vous le regrettez ?
Pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Donc j'écoutais, je crois, peut-être votre radio le matin.
Et probablement.
Et probablement, c'est sûr.
Je ne vois pas quelle heure.
Je ne vois pas d'être... vraiment.
J'entends ça. Haïti, peuple de merde. Africain, peuple de merde. Mais et ma réaction a été immédiate, c'était un cri de colère ou un cri de révolte. Et j'ai tweeté en effet, président de merde, je persiste et je signe, c'est un président de merde.
C'est dit.
Non, mais on est sur bien.
Pardon ?
On est un peu surpris par votre
Mais
au moins, c'est clair.
Et pas seulement pour cette raison-là.
On reproche suffisamment aux gens leur langue de bois.
Exactement.
C'est pas le cas, donc on va pas le reprocher.
Mais oui, on est tellement pas habitués, Jean-Michel.
Un qualificatif pour Emmanuel Macron, spontané ?
Oh, c'est un président... non, tout le contraire, c'est un président d'action. De conviction, d'engagement. Je répète, je ne suis pas d'accord sur tous les plans. On a évoqué à l'instant la question des migrants ou la question de la politique fiscale, mais j'apprécie énormément qu'il respecte ses engagements, qu'il aille de l'avant, qu'il fonce, qu'il construise, qu'il bâtisse. J'aime les responsables politiques qui se défoncent pour bâtir, transformer. Et en ce moment, je ne parle pas du fond de ces réformes, mais de la formation professionnelle à la réforme éventuelle du transport par train, en passant par l'éducation, d'autres domaines. Bon, c'est un travailleur acharné qui cherche à transformer ce pays, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les réformes qu'il accomplit.
Voilà, j'avais demandé un mot pour le qualifier.
J'ai pas trouvé le mot encore.
Non,
je vais y réfléchir.
Vous avez voté pour lui ?
Pardon ?
Vous avez voté pour lui ?
Au deuxième tour, évidemment.
Et au premier, non ?
Au premier tour, c'est tellement loin, vous savez.
Comment ça ? Vous avez oublié, c'est ça ?
Vous plaisantez.
Vous avez oublié pour qui vous avez voté au premier tour ?
C'était il y a 9 mois.
Premier tour, j'ai dû hésiter, je crois.
Et oui, alors ? Et comment vous avez tranché vos hésitations ?
Je n'en sais plus rien. Franchement.
Non, mais attendez, Jack Lang, non.
Je peux vous suggérer.
Vous venez de nous dire, président.
Mais j'ai hésité. Il y avait le candidat de mon parti.
Oui. Ouais. Benoît Hamon.
D'ailleurs, je suis resté fidèle à mon parti. J'ai repris ma carte.
Ok. Alors, mais vous n'avez pas voté pour lui. Maintenant, vous pouvez nous le dire.
J'ai dû voter Benoît Hamon, je crois.
Vous croyez ? Si vous savez
quand
pas...
Quand je crois, ça veut dire c'est sans grand enthousiasme.
Sans grand enthousiasme, d'accord. Juste un mot, peut-être on va déborder un peu, je suis désolé. Michel Déon, ses proches voudraient que ses cendres reviennent à Paris, la mairie refuse, académicien, romancier.
Est-ce qu'il y a de vraies raisons techniques ? Je ne sais pas. En tout cas, si c'était pour des raisons politiques, ce n'est pas acceptable.
C'est dit.
Merci Jack Lang, bonne journée à vous.